Bonjour, ravi de vous retrouver après une petite interruption. Ma chronique d'aujourd'hui s'intitule « Le Doge, la tech et la démocratie ». Vous pensez peut-être au Doge qui régnait sur Venise? Non, rien à voir. Le Doge, aujourd'hui, c'est le Department of Governmental Efficacy, une structure à durée limitée, mi-officielle, créée par décret par le président Trump dès son retour à la Maison-Blanche, mi-officieuse. Elle est confiée à une personne privée, au pouvoir exorbitant, hors de tout contrôle institutionnel. Cette personne, c'est Elon Musk. Le duo infernal a décidé de lutter contre la bureaucratie fédérale, vue comme un repère de, je cite, « criminels paresseux, communistes et wokistes », et contre ses dépenses considérées comme inutiles, en matière de santé, d'éducation, d'allocation, d'aide au développement, etc. Vive la libre entreprise, à bas l'État, et vive la mainmise du milliardaire sur toutes ses activités, FBI et CIA compris. Comme en 2016, lors du premier mandat de Trump, beaucoup de sites ont été débranchés, des données ont été supprimées ou exportées. Le département de l'efficacité gouvernementale a pris le contrôle du système de paiement fédéral, de la base de données des agents, ainsi que de l'agence chargée de la maintenance informatique du gouvernement. Il a également procédé à des licenciements massifs, immédiats ou différés, et fermé arbitrairement des agences fédérales, l'USAID en premier, l'aide au développement, au mépris des besoins urgents de ses bénéficiaires du monde entier. Et cela s'opère grâce à une cohorte de très jeunes employés arrogants, issus des sociétés d'Elon Musk, qu'on appelle les Doge Kids ou encore les Muskovites. Ils se font ouvrir les portes de tous les ministères et de toutes les agences fédérales pour piquer leurs données informatiques et les installer sur on ne sait quel serveur. Avec la saisie illégale mais bénie d'en haut des datas du Trésor public, on touche à toutes les personnes qui en dépendent à travers le pays, pour les prestations de sécurité sociale, les salaires des fonctionnaires, les paiements aux entreprises, les bénéficiaires de subventions du gouvernement, remboursement d'impôts, entre autres multiples fonctions. Nous n'avons aucune visibilité sur ce qu'ils font ensuite avec les systèmes informatiques et les bases de données, commente un haut fonctionnaire évincé. On n'est pas encore à l'heure des bilans, mais pour plusieurs dizaines de milliers de personnes aujourd'hui aux États-Unis, respecter la loi est désormais considéré comme un acte de résistance. Comme tout cela était annoncé, grosso modo, dans le programme de campagne de Trump, des magistrats, des avocats, des profs de droit, des journalistes, d'anciens responsables politiques avaient commencé à envisager des ripostes possibles. Mais ils n'avaient prévu ni l'ampleur, ni la rapidité du passage à l'acte. D'où la sidération qui s'est emparée de l'opinion américaine et ailleurs dans le monde. Il faut y réfléchir à deux fois, en effet, pour interpeller la justice ou le Congrès avec les bons arguments et les meilleurs outils. Pour le moment, les protestations et les actions sont encore disparates, à l'exception de quelques directeurs intrépides qui ont refusé de prendre la porte ou de la tribune collective signée par 5 anciens secrétaires d'État au Trésor, l'équivalent de nos ministres des Finances. Savoir si l'appropriation privée des systèmes informatiques du pays relève d'un coup d'État n'est pas qu'une question théorique. On s'attend à de nombreux rebondissements juridiques et judiciaires. En tout cas, ce qu'il se passe outre-Atlantique doit nous amener à réfléchir sur la protection constitutionnelle des accès aux systèmes informatiques de l'administration. Comme le dit Hubert Guillot, au XXIe siècle, ils sont des lieux clés du pouvoir. Pour démanteler l'état de droit, il suffirait de prendre le contrôle des autorisations d'un serveur informatique. C'est un putsch à balles virtuel qui ébranle dangereusement le monde réel.